Il est 14h45 sur France Culture et comme chaque vendredi, on vous propose une œuvre classique ou contemporaine de la littérature économique. C'est la bibliothèque idéale de l'écho du vendredi. Cap sur l'Angleterre aujourd'hui, le livre que nous avons choisi est signé Edward Palmer Thompson, un historien britannique dont l'œuvre a infusé en profondeur l'ensemble des sciences sociales. La formation de la classe ouvrière anglaise, c'est le titre de cet ouvrage, qui propose une histoire de l'Angleterre par le bas. Et c'est Thierry Labica qui est venu nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en études britanniques à l'Université Paris-Nanterre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter en quelques mots Edward Thompson, Thierry Labica ?
Edward Thompson, c'est la génération des grands historiens britanniques de l'après-guerre, des années 50 et 60, qui sont communément liés au PC britannique. On les appelle le groupe des historiens communistes ou du PC anglais. Et plusieurs sont très connus en France parce que leur production et leur aura étaient telles qu'ils ont été lus très au-delà de leur milieu. Alors le plus connu d'entre eux avec Thompson, c'est Eric Hobsbawm, dont on a traduit beaucoup de livres dans beaucoup de langues, mais notamment en français, l'un des plus connus dans la période récente étant l'histoire du cours XXe siècle, l'âge des extrêmes. Et puis les autres sont le grand historien du XVIIe siècle, Christopher Hill, etc. etc. Donc c'est tout un groupe d'historiens qui a marqué tout ce moment-là de l'après-guerre et qui a produit, autour de Thompson en particulier, ce courant que vous venez de mentionner, c'est-à-dire d'histoire par en bas.
Alors justement, dans quel contexte est-ce que sa grande œuvre, la formation de la classe ouvrière anglaise, est-elle publiée en 1963, Thierry Labica ?
Thompson écrit ça en vis-à-vis de l'histoire coloniale britannique, en train de se défaire, et en vis-à-vis de l'histoire de l'État-providence britannique. Dans les années 50, tout le monde a sous les yeux, les Britanniques ont sous les yeux, Thompson a sous les yeux, la décolonisation de l'Asie du Sud-Est. La Birmanie, la Malaisie en particulier, après l'Inde, après 47. Bon. Et là, on a dans ce contexte colonial-là des grandes insurrections armées des classes agraires, de la paysannerie agraire, notamment d'origine chinoise en Malaisie. Et donc, si vous voulez, on a une confirmation en acte de ce que Thompson va défendre historiographiquement par rapport à la classe ouvrière anglaise pré-industrielle, semi-industrielle, encore agraire du début du 19e siècle. Et donc là, on a ce monde agraire en rébellion anticoloniale, qui n'est finalement pas ce monde agraire réactionnaire rétrograde, mais à caractère révolutionnaire. Au moins, à cette époque-là, on a des raisons de le penser. Donc il y a ça d'une part.
Et l'État-providence de l'autre.
Et de l'autre, il y a un État-providence qui n'est pas un État socialiste. C'est l'État-providence mis en route par les travaillistes, enfin pas seulement, mais enfin principalement par les travaillistes après 45. Et c'est un État qui croit au progrès social de diverses manières, bien entendu, mais qui pratique fondamentalement une forme de paternalisme autoritaire, dans lequel les gens ordinaires, le monde du travail, les travailleurs, les femmes, ne sont pas présumés en capacité de produire eux-mêmes démocratiquement à la base les réformes sociales, cette idée que l'homme et la femme du commun sont incapables d'être bons gestionnaires, en gros.
Il critique d'ailleurs beaucoup la condescendance des intellectuels
absolument,
sur les ouvriers.
Absolument. Donc cette condescendance de l'intellectuel, c'est aussi une condescendance de l'ensemble de la forme étatique progressiste, paternaliste, autoritaire de l'après-guerre. Et donc, quand il publie en 63, il est à la veille d'une résurgence très forte de l'agitation syndicale et ouvrière qui va donner bon tout ce moment transgressif ou subversif des années 60 qu'on connaît bien, et en Grande-Bretagne, des années 70, où là, les expériences du contrôle ouvrier, de la prise en main, de la production, de l'organisation, de la conception même du travail, va aller très loin avec des grandes expériences ouvrières sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. Et donc là, on a une espèce d'anticipation intellectuelle dans le champ historiographique avec Thompson, de ces grandes expériences de contrôle ouvrier, d'initiative et d'émancipation populaire sur toutes sortes de terrains, les minorités, les femmes, les étudiants, les milieux, la classe ouvrière britannique de la période industrielle finissante, disons.
Alors revenons un peu en arrière, Thierry Labica, si vous le voulez bien. Comment est-ce que la classe ouvrière anglaise se forme à la fin du XVIIIe siècle, selon Thompson ? Et surtout, comment est-ce qu'elle se forme à partir d'une foule d'ouvriers très différents entre eux ? C'est ce qu'explique Thompson.
Ouais. Il prend un moment qui est vraiment le moment de la Révolution française, en gros, et le tout début du XIXe siècle. Donc un moment révolutionnaire et un moment contre-révolutionnaire. En Grande-Bretagne, le début de la révolution industrielle, mais c'était un moment intensément contre-révolutionnaire, le début du 19e siècle. Pour Thomson, cette question-là se pose à prioritairement à la critique de diverses formes de déterminisme et d'économisme. Alors, il y en a deux principalement. Il y a l'économisme des historiens de l'économie, qui présume que les mouvements populaires, les bas ordres de l'ancien régime s'agitent, se manifestent par spasme. L'expression est employée. Alors Thomson a des polémiques terribles contre cette idée que les hommes et les femmes ordinaires dans la campagne anglaise au début du 19e siècle ou à la fin du 18e siècle se manifestent par spasme parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer et que les prix augmentent. Et donc il y a cette idée que les gens ne réagissent que s'ils ont l'estomac vide. Donc il y a une vision finalement de type à la fois mécaniste et animal de l'agir populaire. Alors il y a ça d'une part, et les polémiques là-dessus sont très dures et on les retrouvera dans des essais ultérieurs. Et puis il y a une critique d'un économisme et d'un ouvriérisme selon lequel la position de classe est en quelque sorte assignée de l'extérieur par la structure sociale. Bon. Et donc les milieux populaires ne seraient pas acteurs de la production de qui ils sont socialement et collectivement. Et donc Thomson va essayer de reconstruire la dynamique par laquelle il y a à la fois des déterminations objectives et en même temps une participation subjective, collective, active à la construction d'une classe et d'une conscience de classe.
La classe ouvrière se créa elle-même tout autant qu'on la créa, voilà ce qu'il écrit à ce moment-là, Thierry Labicard.
Oui, ben c'est la citation classique qui est un très très bon point d'entrée parce que les concepts qui vont être typiques de Thomson sont des concepts qui répondent à cette passivité présumée dont je viens de parler. Il y a cette idée que les gens ordinaires, les bas ordres, la classe ouvrière naissante est passive et sa classe et son agir est assigné de l'extérieur. Et Thomson nous dit non, elle est active. Et le concept de cette activité de classe, le grand concept, ça va être le concept de agency. Et agency, on est toujours un peu embêté pour le traduire en français, ce mot-là. Bon. Mais ça renvoie à la capacité à être acteur, la capacité à agir collectivement et individuellement et à produire ou à intervenir sur son environnement, ses conditions dans des rapports de forces sociaux qui existent objectivement.
Ce qui est intéressant avec Thomson, c'est aussi qu'il parle de la question de la formation de la conscience de la classe ouvrière et notamment, c'est en lien avec l'élan révolutionnaire des années 1790 en Angleterre. Comment se forme justement cette conscience de classe, selon Thomson?
Dès lors qu'on a dit que la classe ouvrière est active, quel est le répertoire, quel est l'équipement mental, si vous voulez, qu'elle mobilise pour exister collectivement et pour légitimer sa propre action? Toute l'entreprise de Thomson, elle va consister à reconstituer, si vous voulez, cet équipement mental et à regarder à partir de quel répertoire les acteurs légitiment leur propre action. Alors ce répertoire, qui est constitutif de cette conscience, c'est une espèce de bric-à-brac, on pourrait dire, d'idées de la justice, d'idées du devoir moral des classes dirigeantes, de connaissance des rituels et des cérémonies religieuses, et de braconnage, on pourrait dire, de gestes rituels et cérémoniels, de valeurs religieuses, d'utilisation de la Bible. Cette conscience de classe et cette formation-là, elle requiert, de la part de l'historien par en bas, qu'est Thomson, la reconstitution de l'ensemble de ces données parmi lesquelles il y a des éléments rétrogrades, il y a des éléments réactionnaires. L'attente que l'aristocratie, non pas qu'on se débarrasse de l'aristocratie, mais qu'elle remplisse son rôle moral, son rôle protecteur.
Donc, et il va s'appuyer sur un certain nombre de textes, de chansonnettes. Il est particulièrement attentif à la diversité des expériences du travail manuel, Thierry Labicard.
Alors, c'est la grande difficulté de cette histoire, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il il s'agit de trouver une archive de gens qui ne laissent pas d'archives. Les discours des gens célèbres, etc., leurs faits et gestes sont connus. On connaît même, je sais pas, le nombre de fois où le roi George III est allé aux toilettes dans la période où il était fou. Bon, là, on a des gens qui ne laissent peu ou pas d'archives. Et donc, on a dans ce livre-là, comme d'autres livres des historiens par en bas, souvent des introductions qui nous disent on va écrire l'histoire de gens dont on peut pas écrire l'histoire. Et donc, il y a un travail de constitution de corpus, à partir de petites ritournelles, de poésie, de littérature populaire, qui est quelque chose d'extrêmement impressionnant du strict point de vue du travail de l'historien.
Et il y a du coup, ce qu'on observe dans cet ouvrage, c'est la part aussi qui est accordée à l'émotion qui ressort de ces archives, Thierry Labicard.
Ben oui, parce que En gros, voilà, il y a des places et des positions et des rôles dans une structure sociale qui sont assignés de l'extérieur. Là, on voit apparaître des subjectivités, on voit des personnages qui ont une part romanesque, on pourrait dire. Hein.
Et Thompson... Ça a d'ailleurs été reproché à Thompson. On a dit que son histoire était trop romantique, justement.
C'est ça. On a beaucoup parlé de romantisme, comme à la fois avec un mélange d'admiration, parce que c'est un très bon écrivain. C'est un écrivain magnifique, un polémiste acéré, terrible. Il ne faut pas se fâcher avec lui, parce que bon. Mais en même temps, ça pouvait se retourner contre lui, parce qu'il se dit, t'écris drôlement bien, bonhomme, mais finalement, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Alors effectivement, chez Thompson, il y a une validation d'une forme de nostalgie romantique, notamment pour comprendre la critique de la mécanisation par les briseurs de machines. Alors dans The Making of the English Working Class, vous avez comme un livre dans le livre sur les luddites. Les luddites sont les briseurs de machines.
Dans les années 1811-1812.
Exactement, juste à la fin des guerres napoléoniennes. Et donc... on a toute une charge de subjectivité à la fois en rébellion et à la fois fonctionnant avec un certain nombre de, si vous voulez, d'attendus et de caractères rétrogrades qui produit une image aussi ambiguë que l'est n'importe quel être humain dès lors qu'on le voit pas sous un cadre sèchement théorique, si pour le dire vite.
C'est en tout cas un livre qui bat en brèche la vision du Royaume-Uni comme le pays de la réforme face au pays de la révolution, ouais. Que serait la France.
Il y a l'idée que la Grande-Bretagne est le pays de la stabilité, de la continuité par opposition à une Europe qui a connu des guerres, des révolutions, etc., etc. Bon, donc il y a tout un grand récit national que Thompson, effectivement, avec cette histoire-là, bah en brèche, oui.
Il montre les répressions, par exemple, dont font l'objet un certain nombre d'émeutes d'ouvrières.
Alors, il y a tout ça, et puis il montre aussi la circulation des idées révolutionnaires du jacobinisme en Grande-Bretagne, et de ces milieux. Alors, il y a les milieux connus, littéraires, ces écrivains importants, mais il y a aussi une diffusion beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus fine, beaucoup plus large, des slogans de la Révolution française, des idées de la Révolution française, et Thompson fait aussi ce tableau-là, notamment dans sa porosité avec la migration irlandaise au début du 19e siècle.
Pour finir, Thierry Labica, pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, relire la formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward Thompson ?
Écoutez, comme beaucoup de livres longs et réussis, un livre long, ça...
1000 pages, tout de même.
Oui, c'est ça. Ça transforme un peu, parce qu'on a un temps d'immersion dans le bouquin, du récit, du ton de l'auteur, qui laisse une trace longue, quoi. Thompson nous parle d'un moment où la classe ouvrière émerge, alors que ces formes organisationnelles connues, les partis, les syndicats, les campagnes électorales, tout ça n'existe pas encore. Donc on est dans l'avant de toute cette institutionnalisation, légalisation de la classe ouvrière. Or aujourd'hui, alors à grande distance, il faut se méfier des analogies, mais on est quand même dans un moment historique où les formes organisationnelles classiques de la classe ouvrière sont assez mal en point en général, et où, en même temps, les formes d'activité, d'agitation restent très importantes. Alors, évidemment, le cas de, on a des formes de mobilisation qui ne sont pas organisées par les forces organisées classiques, mais qui ont des logiques internes avec des attentes morales. Alors, la question des gilets jaunes devient tout de suite à l'esprit. Et les catégories thompsoniennes et le type de regard que porte Thompson sur les mobilisations et la radicalité sociale, là, elle est une source d'inspiration considérable pour ce type de mouvement.
En quoi concrètement Edward Thompson pourrait nous aider à comprendre cette crise des gilets jaunes ?
Là, on voit beaucoup d'images de crasse, de une forme de sauvagerie, l'idée que le mouvement, alors il y a de l'extrême gauche, il y a beaucoup d'extrême droite, il y a ci et ça. Là, on a un regard qui exige de la patience et qui exige de reconstituer de l'organisation, des paramètres moraux, des paramètres politiques, là où ces paramètres n'ont pas été préalablement donnés par une organisation, avec un programme, avec des statuts, avec un texte fondateur, etc. etc. Et donc, l'organisation existe, à la fois pratique et morale, et Thompson nous apprend à avoir la patience de redémêler, de reconstituer le bric-à-brac de positions réactionnaires, de positions progressistes, les ambiguïtés qui traversent tout mouvement social de cette nature.
Merci beaucoup Thierry Labica. La formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward Thompson est paru au Seuil, et je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous venez de publier, L'hypothèse Jérémy Corbyn, une histoire politique et sociale de la Grande-Bretagne depuis Tony Blair, paru chez Demopolis. Merci beaucoup.
Merci.